Mon propos va consister, dans ma première partie, à clarifier avec vous ce qu'il en est de la dignité. C'est-à-dire que ce concept est utilisé de différentes façons. Les dictionnaires eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas toujours très très à l'aise. Alors, si vous voulez bien, eh bien, nous allons faire le petit cours de philosophie que vous attendez. Je vous promets à l'avance que je ne serai pas d'une technicité rebutante. J'en fais le serment solennel afin de ne pas réactiver de mauvais souvenirs de classe de terminale chez certains d'entre vous, peut-être. Et donc, nous allons tranquillement examiner les trois étages, les trois significations que l'on peut donner à ce mot de dignité. Et comme vous allez me trouver un tout petit peu long dans le premier étage, je vous préviens tout de suite que les deux autres seront plus rapides dans l'exposé. Donc je suis dans ma première partie, et dans la première partie de ma première partie, je prends le sens du mot dignité dans son acception forte de valeur absolue, incomparable, donnée à l'être humain. Qu'est-ce que la dignité ? Eh bien, c'est le fait d'attribuer à un être humain une valeur absolue, une valeur indérogeable. Ce sens, vous pouvez le retrouver évidemment très aisément par vous-même. Et il a quelques lettres de noblesse à faire valoir, ne serait-ce que depuis le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, on va dire, pour éviter de penser qu'il puisse y avoir une Troisième Guerre mondiale. La dignité a été un concept assez négligé par les juristes. Et si vous regardez, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, celle de 1789, vous ne trouvez pas ce mot de dignité. Vous le trouvez certes, mais au pluriel, et dans un sens qui n'a strictement rien à voir avec ceux que nous allons explorer aujourd'hui, qui est que les charges, les emplois publics, les dignités doivent être attribués de façon démocratique et non pas donnés à chacun en fonction de sa naissance ou de sa fortune. C'est l'article 6 de la Déclaration de 1789 qui utilise ici le mot de dignité au pluriel. Rien à voir donc avec le mot de dignité au singulier tel qu'on le trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle dont nous allons fêter à la fin de cette année le 60e anniversaire, celle du 10 décembre 1948, promulguée par l'ensemble des Nations Unies, au sortir donc de la douleur que fut le nazisme, de la douleur que fut la Deuxième Guerre mondiale. Je fais cette allusion parce que ça n'est pas un hasard si le mot de dignité est arrivé à prendre la place de pivot central dans le système des valeurs sur lesquelles repose l'ensemble de notre morale commune et l'ensemble des droits de l'homme désormais. Le préambule de la Déclaration de 1948 dit très exactement « Considérant la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et considérant leurs droits égaux et inaliénables », eh bien, je passe parce que le texte est un petit peu long et un peu empoulé dans le préambule, mais il commence exactement comme je viens de vous le dire. « Considérant la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » et suivent à ce moment les trois autres piliers qui sont comme dérivés de cette dignité. Ces trois autres piliers sont la liberté, la paix et la justice. Donc les trois grandes valeurs qui vont ensuite expliquer la déclaration article après article de l'ensemble des droits de l'homme, eh bien ces trois grandes valeurs sont issues du socle de la dignité. C'est le premier mot et c'est le mot clé du préambule de la Déclaration de 1948. L'article 1er, vous avez peut-être en mémoire celui de 1789 qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et l'article 1er de la Déclaration de 1948 dit très exactement tous les hommes, les êtres humains, c'est pour ne pas oublier les femmes au passage, tous les êtres humains naissent, on a supprimé « et demeure » parce qu'on a considéré que c'était un pléonasme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. On a intercalé ici le mot « dignité », on l'a même placé avant le mot de droit. Voilà, voyez comment ont travaillé les déclarants de 1948. Ils ont pris en considération l'article 1er de 1789 et ils ont dit « il manque quelque chose ». Et ce quelque chose qui manque, c'était ce qui précisément était inscrit au fronton du préambule de la Déclaration et qui se retrouve ici en position stratégique dans l'article 1er de 1948. Alors, la dignité, donc, est reconnue désormais comme le pivot de toutes les autres valeurs, un peu comme si on avait eu tendance à l'oublier. Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'était pas inintéressant de faire remarquer que tout cela se passait en 1948, c'est-à-dire au sortir de l'épreuve du nazisme, parce qu'on a inventé très peu de temps avant cette prise en considération du terme de dignité, le syntagme juridique « crime contre l'humanité ». On a, en 1944, considéré qu'il fallait inventer, les juristes internationaux en tout cas ont fait cette considération, il fallait inventer un nouveau mot pour désigner un crime dont on n'avait pas jusqu'à présent exactement l'expérience, en tout cas dont on n'avait pas mesuré l'ampleur. Et ce crime contre l'humanité signifie très exactement, il suffit de le regarder dans sa littéralité, cette expression, signifie très exactement crime contre l'humanité de l'humain. C'est-à-dire qu'à côté des crimes dont nous sommes, hélas, dans l'humanité habitués à voir les dégâts, il y a un nouveau crime qui ne consiste pas tant à enlever la vie de quelqu'un, ce qui est évidemment déjà en soi ignoble, mais il existe une forme de crime qui consiste à enlever l'humanité de l'humain. C'est-à-dire que des humains ont été considérés comme n'étant pas des humains, et c'est ça la Shoah, et c'est ça le génocide dont ont été victimes les Juifs et dans une moindre mesure les Tziganes. C'est-à-dire que le crime ici, c'est évidemment le génocide, mais le génocide n'est que la conséquence du crime contre l'humanité, qui est que s'il y a eu génocide, c'est parce qu'on a ôté l'humanité de ces humains. Si bien que, si l'on veut être rigoureux, exact dans les termes que nous utilisons, il ne faut pas dire que les nazis ont exterminé des hommes parce qu'ils appartenaient au judaïsme, parce qu'ils étaient juifs. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Ils ont exterminé des juifs parce qu'ils n'étaient pas des hommes. C'est-à-dire que le premier crime est celui qui a consisté à leur enlever l'humanité. Et ensuite, évidemment, tout était possible. Dès lors que l'on a nié, dès lors qu'on en a dénié l'humanité d'un humain, eh bien, on a commis un crime contre l'humanité. Voilà ce que les juristes internationaux ont voulu, de façon très forte, dire en inventant ce nouveau syntagme, cette nouvelle expression, donc, qui désormais, d'ailleurs, est rentrée dans les constitutions de tous les pays démocratiques. Et donc, le mot de dignité, ben c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité? C'est un crime contre la dignité de l'humain qui n'est plus reconnu comme humain, qui n'est plus reconnu comme ayant une valeur intrinsèque, inconditionnelle, intangible, intouchable, absolue. Vous voyez tous les adjectifs ici que l'on peut multiplier pour caractériser cette dignité-là. Cette dignité, donc, eh bien, désormais, elle est, je crois, il y a un accord unanime des nations civilisées là-dessus, elle est désormais donc ce qui fonde les autres valeurs, ce qui fonde le vivre ensemble de l'humanité. Une toute petite précision encore pour mieux me faire comprendre. Le crime contre l'humanité, disais-je, n'est pas directement un crime contre la vie. Le crime contre la vie humaine est une conséquence de ce crime contre l'humanité. J'ai parlé du génocide, mais il y a dans les crimes contre l'humanité, des crimes qui ne sont pas des crimes qui ôtent la vie humaine. Les juristes internationaux ont, par exemple, caractérisé la réduction d'un peuple en esclavage comme étant un crime contre l'humanité, alors que réduire un peuple en esclavage, ça n'est pas nécessairement chercher à faire mourir les esclaves. Au contraire, même, les exploiteurs des esclaves ont tout à fait intérêt à les faire vivre et non pas à les supprimer. Et pourtant, c'est un crime contre l'humanité. Parce que ça veut dire que l'on a décidé qu'une catégorie d'humains était moins humain que d'autres humains. Il y a des sous-hommes quand on dit que certains sont là pour être au service, comme des outils, d'autres humains. Je dis comme des outils parce que c'est la définition que l'on donnait dans l'Antiquité de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave ? C'est un outil animé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est exclu de l'humanité commune dès lors qu'il est réduit en esclavage. Donc vous voyez, à travers ce simple exemple, le crime contre l'humanité, qui est plus grave que le crime ordinaire, je m'excuse du mot ordinaire qui ne convient pas très bien ici, mais vous voyez ce que je veux dire, le crime contre l'humanité, donc, lui, il est imprescriptible, c'est-à-dire qu'on peut être poursuivi 60 ans après, 70 ans après. Voyez l'accusation qui a été portée contre Darquier de Pellecoy, contre Papon ou encore contre Barbie. Ici, il n'y a pas de limite dans le temps. Alors que tous les autres crimes peuvent être prescrits. Si vous avez tué quelqu'un et qu'il n'y a pas d'enquête de déclencher, et bien, au bout d'un nombre d'années déterminées, il y a prescription. Ça ne veut pas dire que ce crime ne soit pas grave, mais ça veut dire qu'il est considéré comme moins grave que le crime contre l'humanité. Donc le crime contre l'humanité, j'ai donné l'exemple de l'esclavage, parce qu'il est assez parlant pour bien faire comprendre que c'est un crime contre la dignité de l'homme. Je pourrais donner aussi le crime, il y a deux autres crimes qui n'enlèvent pas la vie et qui relèvent pourtant du crime contre l'humanité chez les juristes internationaux. C'est d'une part décision de créer l'apartheid dans un pays. Désormais, ce crime d'apartheid est aussi considéré comme un crime contre l'humanité parce qu'il signifie justement qu'il y a des humains qui sont moins humains que les autres. Et enfin, on ajoute, pour que je sois exhaustif ici, on ajoute le crime qui consiste à déporter une population. Voilà. Donc, vous voyez que l'on peut placer à une altitude tout de même impressionnante, cette notion d'humanité, surtout si on l'articule avec ce dont la prise de conscience des déclarants de 1948 est la conséquence logique, c'est-à-dire la notion de crime contre l'humanité. Donc, à la limite, on peut remplacer dignité par humanité. On peut dire que l'humanité de l'humain, c'est sa dignité. Ce mot, si on veut lui garder ici toute sa force de percussion, en rigueur de terme, on ne doit l'appliquer qu'à l'être humain et ne pas l'appliquer à l'animal, par exemple, parce que, bien sûr, nous avons des devoirs envers les animaux, nul ne le contestera, mais n'allons pas jusqu'à dire que l'animal possède une dignité intrinsèque. L'animal reste du domaine de ce qui peut servir l'homme, servir à l'homme, alors que l'homme ne peut jamais servir à l'homme, au sens du serf, au sens de l'esclave, ne peut jamais servir, ne peut être asservi. Donc le mot de dignité est à conserver dans la dimension d'humanité. La dignité, c'est l'humanité, et l'humanité est humanité dès lors qu'elle est digne. Alors ne me demandez pas de vous faire une démonstration mathématique, il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que les déclarants, et c'est très intéressant cette expression de déclaration, de déclarant, il n'y a pas autre chose à dire que nous déclarons, dès lors que nous arrivons de l'humanité, que tous les humains, dès lors qu'ils sont humains, sont dignes. Et il n'y a strictement rien d'autre à dire. La dignité n'est pas évidemment une notion concrète. C'est une valeur que nous accordons à l'être humain, encore une fois. Vous ne verrez jamais la dignité sous le scalpel d'un chirurgien, vous ne verrez jamais la dignité derrière un scanner. La dignité, c'est une notion philosophique peut-être, mais vous avez compris, c'est une notion citoyenne d'abord. Alors, l'adjectif que j'utilise, mais je ne vais pas vous encombrer ici d'une technicité, je m'y suis engagé, pour caractériser cette dignité, c'est la dignité ontologique, c'est-à-dire, pardonnez-moi ce mot un peu barbare, c'est-à-dire quelque chose qui tient à l'être de l'homme. Comprenez, si le mot vous effraie, simplement ici qu'il s'agit de la dignité intrinsèque, celle qui appartient constitutivement à l'être humain en tant que tel. Je l'appelle ontologique parce que ce mot de notre langue philosophique, un petit peu jargonnante, mais toutes les disciplines ont le devoir d'avoir un vocabulaire technique, cette expression, elle veut dire en grec que c'est simplement l'être de l'homme. En grec, le participe présent du verbe être, c'est ontos. Ontologique, ça veut dire simplement c'est l'être lui-même. Ça appartient à l'être de l'homme. La dignité ontologique, autrement dit, ne peut pas se perdre. Elle est liée, vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus en fonction de ce qui va venir tout à l'heure, elle est reliée à l'être humain dès lors qu'il est un être humain. Je ne fais que répéter cette formule, elle est intrinsèque à l'être humain. Elle n'est pas une détermination physique, même morale, non. Elle est ce qui appartient en propre à l'être humain dès lors qu'il est reconnu comme faisant partie de la communauté des humains. Et quel que soit le jugement que l'on peut porter sur soi, quel que soit le jugement qu'autrui peut porter sur soi, cette dignité, au sens que je viens de dire, jamais ne peut se perdre. Il me semble qu'il y a tout de même, grossièrement, un consensus autour de ça. Je dis grossièrement, parce qu'il y a parfois des visions assez curieuses, y compris d'ailleurs certaines expressions rapides chez certains intellectuels. Par exemple, l'autre jour, je lisais dans la presse cette définition du médiateur de la République. C'est pas n'importe qui. Normalement, le médiateur de la République, il devrait, me semble-t-il, quand il écrit un texte, le faire relire au moins par des amis philosophes. Il a cru devoir écrire que la dignité, finalement, c'était l'idée que chacun se faisait de soi. C'est une catastrophe de dire une chose pareille par rapport à la déclaration de 1948, parce que la dignité, elle ne dépend pas de la géométrie variable, elle ne dépend pas de mes sentiments subjectifs, elle m'est donnée. Bien sûr que je peux avoir une plus haute ou plus basse estime de moi, bien sûr, mais cela n'a rien à voir avec le fait que, dès lors que je suis un être humain, la dignité m'est invinciblement attachée. Tant que je suis vivant. Alors, cette dignité, les philosophes l'honorent à leur façon. Il y a dans notre tradition, mais les philosophes ne sont pas les seuls à porter cette tradition, il y a dans notre tradition culturelle, évidemment, des voies d'accès à cette considération de la dignité. Et en ce qui me concerne, sans faire allégeance du tout à ce philosophe des Lumières, à ce philosophe du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, je considère que c'est très intéressant ce qu'il nous a appris sur la dignité. C'est peut-être lui qui a le plus formalisé la notion en disant des choses finalement assez simples malgré les apparences, en disant par exemple que ce qui a une dignité, c'est ce qui jamais ne peut être réduit au rang de moyen. Alors, la deuxième maxime de l'impératif catégorique de la morale de Kant dit très exactement « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne et en celle d'autrui toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen ». Peut-être avez-vous quelques vagues réminiscences de cette formule que votre professeur de philosophie vous a assénée un jour où vous étiez peut-être attentif. Et elle veut dire, cette formule, que tout simplement... l'être humain est à lui-même sa propre fin et que jamais il ne peut être réduit au rang de moyen pour autre chose. Et surtout, elle veut dire cette formule que nous devons traiter l'humanité de l'homme toujours de cette façon très très haute, très très élevée, parce que tout simplement l'homme est ce qui a une valeur absolue. Alors ce qui a une valeur absolue, ça s'oppose à quoi ? Ça s'oppose à ce qui a une valeur relative. Et ce qui a une valeur relative, c'est ce qu'on peut mettre en relation avec autre chose que soi. Par exemple, deux objets, même deux animaux, ont une valeur, mais une valeur relative. C'est-à-dire que je peux comparer. Je peux, par exemple, pour le prix d'une vache, acquérir trois moutons. Et donc, la valeur de la vache est relative. Elle a un prix, comme dit exactement Emmanuel Kant. En revanche, en aucune façon, je ne peux utiliser ce raisonnement s'agissant de l'humain, parce que lui... précisément, n'a pas de prix. Il ne peut jamais être comparé. L'humain est de l'ordre du qualitatif, alors que tout ce qui ne ressortit pas à l'humain est de l'ordre du quantitatif. Et ce qui est quantifiable, c'est ce qui a une valeur qu'on peut mettre en relation avec une autre valeur. Voilà le sens du mot relatif. Donc, valeur absolue, valeur inconditionnelle, pour reprendre un autre terme de Kant, valeur donc intangible. Ne soyons pas surpris si, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est le peuple allemand qui a été le premier à inscrire dans son bloc de constitutionnalité la notion de dignité. L'article 1er de la loi fondamentale en Allemagne, 1949, c'est « la dignité de l'être humain est intangible ». Vous voyez, ils utilisent le terme « intangible » pour dire « intouchable ». Les Allemands sont d'ailleurs, et je l'observe bien, moi qui suis très attentif à tout ce qui se passe dans le domaine des discussions bioéthiques, les Allemands sont probablement en Europe parmi les plus attentifs au respect de la dignité. En particulier, ils sont encore plus rigoureux, plus exigeants que nous sur tout ce qui concerne les recherches sur l'embryon, parce qu'ils savent où ça commence, quand on touche à la dignité de l'être humain, et ils savent trop bien où ça peut finir. Et donc, ils ont inscrit donc, dans leur loi fondamentale, c'est ainsi qu'on nomme la Constitution en Allemagne, cet article premier que je viens de vous dire, la dignité de l'être humain est intangible, intouchable. En aucune façon, nous ne pouvons la violer, la nier, la diminuer. Alors, ce serait pas suffisant de donner à cette dignité simplement ces lettres de noblesse philosophiques. Il faudrait, je n'en ai pas le temps ici, mais il faudrait aussi dire tout ce que nous devons aux grandes traditions, aux grandes sagesses, et en particulier à la sagesse juive. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est aux juifs que Hitler s'est adressé prioritairement. La sagesse juive qui dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est pas rien. Ça veut dire que si l'homme est élevé à une telle altitude, que l'on croit en Dieu ou non, n'y change rien. Mais si on l'affirme sous cette forme-là, c'est que, évidemment, il y a une commune humanité qui est non divisible. Quand les Juifs affirment dans la Genèse que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils n'affirment nullement qu'il s'agit ici des gens qui embrassent la religion juive. Ils affirment ici que c'est une vérité universelle qui vaut pour tout le monde. Et ça, c'était évidemment parfaitement insupportable au nazisme qui ne s'est pas trompé d'ennemi. L'ennemi prioritaire, c'était bel et bien le peuple qui portait cette tradition dont nous sommes nous-mêmes les héritiers en tant que étant ici aussi les héritiers justement de la culture chrétienne qui elle-même dérive de la culture juive. Il était évident que le nazisme avait à se porter en priorité, lui qui considérait qu'il y avait des étages dans les humains et les moins humains, il était normal qu'il s'adresse en priorité à ce peuple qui avait l'audace de mettre tous les humains au même rang, puisque reflet du divin. Il faudrait aussi prendre le temps de regarder comment les grands tragiques grecs, je pense ici à Sophocle, 4 siècles, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui dit quelque chose de tout à fait étonnant. Il n'utilise pas le mot dignité, mais il décrit bien la chose. Vous savez, dans l'histoire d'Édipe, Édipe à Colonne, c'est très exactement à cette tragédie que je fais référence en ce moment. Vous savez, Édipe, il lui est arrivé tous les malheurs possibles. Il a tué son père, il a accouché de façon incestueuse donc avec sa mère, et donc il est aveugle. Et donc ce qui lui est arrivé, c'est évidemment épouvantable. Eh bien, Sophocle, d'une façon absolument étonnante, fait dire à Édipe, à ce moment où il est complètement perdu dans son lien d'humanité, c'est lorsque je ne suis plus rien que je suis vraiment un homme. C'est-à-dire que Édipe touche ici au fondement même de la dignité qui jamais ne peut correspondre à un signe extérieur, à une apparence visible, voire à un comportement. Alors, je m'en tiens là sur ce que j'avais annoncé comme la plus longue de mes parties, et en fait, c'est ma première partie de ma première partie, mais rassurez-vous, je tiendrai les temps. Mais je crois qu'il fallait quand même passer du temps à explorer cette dimension de la dignité attachée à l'être humain en tant qu'être humain. La deuxième sous-partie consiste maintenant, ça va être très rapide, à examiner une toute autre signification du mot de dignité, dont je m'empresse de dire qu'elle est parfaitement légitime. Le langage est ainsi fait que nous pouvons utiliser des mots dans des contextes différents et avec des définitions différentes. Si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous voyez, premièrement, deuxièmement, troisièmement, il y a beaucoup de mots qui sont polysémiques, qui ont plusieurs significations, bien entendu. Et le mot dignité n'y échappe pas. Alors, nous avons coutume, à côté de ce sens que je viens longuement de vous présenter, nous avons coutume de dire de quelqu'un dans certaines situations qu'il est plus ou moins digne, qu'il est plus ou moins à la hauteur d'un comportement ou d'une présentation attendue. Vous avez bien compris, dans le premier sens, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas plus ou moins digne, je suis digne dès lors que je suis un humain. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Mais dans un deuxième sens, je peux être plus ou moins donc en conformité avec une certaine norme. Par exemple, si l'on décide que lorsque l'on assiste à une conférence à Poitiers un soir de mai, il est convenable d'arriver habillé comme vous l'êtes, Eh bien, si parmi nous s'est glissé quelqu'un qui est arrivé ce soir en pyjama au maillot de bain, on va peut-être dire qu'il manque de dignité parce que... Alors, parce que quoi ? Mais parce qu'il ne s'est pas mis en conformité avec une norme sociale, vestimentaire en l'occurrence, puisque j'ai choisi cet exemple, déterminée. Il ne sera pas très digne, voilà, on va penser ça. Et pour autant, nous n'aurons pas nié le fait qu'il appartienne à notre commune humanité et que donc il ait perdu sa dignité ontologique. Disons qu'il a manqué de décence, voilà ce que nous allons dire. Et voilà le synonyme que je vous propose pour ce deuxième sens de la dignité. On est plus ou moins décent, c'est-à-dire on est plus ou moins convenable. Et là, la racine latine, d'ailleurs, est très, très, très juste. Décence, c'est un mot qui vient du latin decet, ce qui convient. Voilà, on est plus ou moins convenable. On est plus ou moins convenable. Alors, vous pouvez multiplier à l'envi les situations où nous sommes plus ou moins convenables. Vous pouvez dire, par exemple, que une société, à un moment donné, va trouver que ça n'est pas très convenable de mettre les handicapés dehors. Je dis ça dehors, je veux dire dans la circulation publique. Je dis ça parce qu'il y a encore 30 ans, j'ai entendu, de mes oreilles entendu, des personnes dire « ces gens-là devraient rester chez eux ». Ils ne devraient pas nous infliger le spectacle de leur fauteuil roulant. Moi, j'ai entendu ça, je m'en souviendrai toute ma vie, en descendant d'un car où il y avait précisément beaucoup de personnes avec des béquilles et des fauteuils roulants, et d'autres personnes jeunes, évidemment, toniques, bronzées, tout ce que vous voudrez, trouvaient que ce spectacle venait leur gâcher un peu leurs vacances. Bon, Dieu merci, nous avons énormément évolué et aujourd'hui, je crois que ce type de comportement qui était déjà pas forcément très majoritaire à l'époque, mais est assez impensable. Mais vous voyez que les normes de la dignité peuvent être très variables. D'ailleurs, pour continuer avec mon exemple un peu simpliste de tout à l'heure, si vous vous réunissez au bord de la mer... En fin d'année, vous serez un maillot de bain et personne ne trouvera rien à redire. Autrement dit, les normes en question, elles sont toujours à géométrie variable, c'est le cas de le dire. Elles peuvent être très différentes selon les sociétés, selon les époques et selon les moments où nous nous trouvons. Alors, il n'y a pas évidemment que l'aspect vestimentaire, il y a aussi l'aspect corporel, l'aspect physique. Je viens d'y faire allusion avec le handicap. Et est-ce que c'est bien digne d'être dans une position de lourd handicap ? Est-ce que c'est bien digne d'être dans une position de fin de vie ? Est-ce que c'est bien digne d'être sur le plan maintenant non plus physique, mais sur le plan moral, de faire telle ou telle chose ? Ben, chacun voit bien que Fourniret est un être qui n'honore pas la dignité humaine et qui se montre particulièrement indigne dans les forfaits qu'il a commis et même... dans ce qu'il dit ou ne dit pas lorsqu'il est interrogé par un tribunal. On voit bien qu'il y a donc, sur des plans certes très différents, mais des conformités à des normes qui sont à examiner chacune pour leur compte. Quelqu'un qui manque d'héroïsme, quelqu'un qui manque de bravoure, eh bien, il n'est pas forcément très digne, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui dans le comportement de sa vie personnelle, de sa vie morale. Donc, si vous voulez, je résume dans ce deuxième sens du mot de dignité, aussi bien ce qui peut concerner l'apparence physique, l'apparence comportementale, l'apparence morale, le comportement moral lui-même, eh bien, je peux être plus ou moins digne, je peux être plus ou moins en conformité avec des normes dont certaines sont variables, dont d'autres le sont moins. Par exemple, les normes morales, évidemment, sont plus universalisables, bien entendu. Alors, j'y insiste, ce n'est pas, et vous avez compris, je n'ai pas besoin de faire de grands développements, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en conformité avec une norme donnée que l'on a perdu la dignité au sens numéro un. Et ce qui se passe dans le débat public parfois sur ces questions de dignité, et en particulier lorsqu'il s'agit de fin de vie, ce qui se passe, c'est un véritable glissement sémantique qui fait que l'on oublie complètement la première dimension et que sous prétexte que quelqu'un ne serait pas digne au sens numéro 2, il pourrait n'être pas digne au sens numéro 1. Et là, ça ne va pas. Là, on voit bien les dangers que fait courir une telle glissade sémantique. Troisième sens du mot de dignité, et qui n'est pas sans lui aussi valeur, sans intérêt, c'est le fait de considérer qu'un être digne est un être libre. Et c'est vrai, on doit le dire. Un être digne, c'est un être qui a une telle valeur qu'on ne peut pas la servir. Donc nous retrouvons notre définition de départ. La servitude est contradictoire avec la dignité. Donc il faut haut et fort clamer que la liberté fait partie de la dignité. Alors, attention, parce que s'il y a un mot encore plus piégé que celui de dignité, plus polysémique, un mot qui chante plus qu'il n'est conceptualisé le plus souvent, c'est bien le mot de liberté. Il ne s'agit pas ici d'une liberté qui consisterait à dire bon, « chacun fait ce qu'il veut comme il veut ». Vous savez, moi qui ai enseigné pendant quelques petites années en classe de terminale de philosophie, je me souviens toujours de la réaction très... très offensés, très effarouchés de mes élèves quand je leur disais que la liberté n'était pas nécessairement de faire tout ce qu'ils voulaient. « Ouais, monsieur, nous, on est libre quand nos parents nous laissent sortir le soir. On n'est pas libre quand ils ne nous laissent pas sortir le soir. » Ah oui, mais alors, quand on explique un peu plus précisément que si on est un renard libre dans un poulailler libre, il se pourrait, mademoiselle, qu'en sortant toute seule le soir à minuit, vous ne soyez pas si libre que vous le croyez parce que vous allez être, au contraire, prisonnière d'un certain nombre de risques d'agression, etc. Je suis libre si je fume ma cigarette quand j'en ai envie. Oui, mais est-ce que vous êtes capable de ne pas fumer quand vous en avez envie? Autrement dit, vous dites que vous êtes libre, mais en réalité, vous êtes dépendant. Et c'est exactement le contraire de la liberté. Bref, c'est un mot très, très difficile à manœuvrer. Et donc, il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la liberté, ça n'est pas l'obéissance à nos caprices. L'obéissance à nos impulsions. La liberté n'est liberté que si elle est celle d'un être humain. Et un être humain n'est un être humain que s'il est raisonnable, c'est-à-dire qu'il n'y a de liberté que pour un être raisonnable, c'est-à-dire qui fait usage de sa raison. Autrement dit, mon acte est vraiment libre, authentiquement libre, quand il émane de ma personne humaine réfléchie, raisonnée, et non pas de la partie en moi pulsionnelle, passionnelle, éventuellement. Suis-je libre quand je suis dirigé par mes passions, par mes impulsions ? Par mes caprices, par mes goûts, par mes préférences ordinaires. Vous savez, il y avait une émission autrefois, heureusement elle est disparue aujourd'hui, qui s'intitulait « C'est mon choix ». Et bien, « C'est mon choix », c'est exactement le contraire de la liberté. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, en réalité, je fais ce que le déterminisme social me conduit à faire, ce que mon impulsion du moment me conduit à faire. La liberté, donc, est celle d'un être raisonnable. Si bien que, lorsque une prostituée, par exemple, et je ne donne pas cet exemple au hasard, dit que sa dignité, c'est d'exercer le métier de travailleuse du sexe. Parce que, dit-elle, vous n'avez pas le droit, vous, société, de m'interdire ce métier que je veux exercer librement. Bien sûr, elle a le droit de le dire, mais est-ce que ce discours est rigoureux? Est-ce que ce discours est fondé? Est-ce que cette liberté n'est pas en réalité une aliénation dans la mesure où son corps, elle en fait un moyen et non plus une fin pour rester dans le registre du kantisme dont je parlais tout à l'heure? Et donc, je peux me croire libre sans l'être réellement. Autre exemple, celui qui a été jugé il y a... environ une dizaine d'années, peut-être un peu plus, une affaire qui avait défrayé la chronique judiciaire. Un nain, une personne de petite taille, avait inventé son métier en se faisant lancer dans les airs avec une catapulte et les gens payaient pour qu'ils se reçoivent sur un matelas et il y en avait qui trouvaient ça assez drôle, ça se passait dans une discothèque et en fait le maire de la commune était gêné par cette publicité incongrue, la fédération des nains elle-même était évidemment choquée que l'un des siens puisse se trouver dans cette position de projectile. Et l'affaire est allée au tribunal, je vais vous passer les détails, et on a tranché à la fin en disant que cette personne, le nain en question, était parfaitement lucide, les psychiatres n'avaient rien trouvé à redire, mais que même il était libre. mais que sa liberté devait s'effacer devant la dignité. C'est-à-dire que le principe de dignité était indérogeable, était intouchable, et que sa dignité donc devait l'emporter sur sa liberté. Donc la dignité reste, même quand la liberté est moins mal comprise que dans les exemples que je donnais jusqu'à présent, la dignité reste un rempart contre une liberté qui pourrait devenir folle. Voilà peut-être ce que l'on peut essayer d'expliquer concernant cette notion de dignité. Alors évidemment, vous attendez maintenant que je sois un peu plus explicite concernant la notion de fin de vie, et c'est ce que je vais faire dans le dernier quart d'heure.